Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Alors quand on rend service à une personne et que cette personne nous dit merci, eh ben en français, dans la langue française, on a l'habitude de répondre soit par de rien ou alors il n'y a pas de quoi ou même service. Ce qui signifie que le service que l'on a rendu n'est rien, qu'il n'y a pas besoin de dire merci, que c'est très volontiers et surtout que l'on n'attend rien en retour. Mais est-ce que ces mots traduisent de manière authentique notre état d'esprit dans le service? Alors ce matin, nous continuons notre parcours dans l'évangile de Marc, et je vous propose tout simplement que l'on puisse ouvrir tous ensemble nos Bibles pour lire le passage dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 32 à 52. Petite faute à l'écran. Les versets 32 à 52 du chapitre 10 de l'évangile de Marc. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations, dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, Va, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue. Et il suivit Jésus sur le chemin. Alors ce matin, nous allons voir que nous sommes appelés comme disciples de Jésus-Christ à servir Dieu et notre prochain, comme Jésus nous a servis en premier. Et nous verrons que Jésus a accepté de souffrir, qu'il nous propose un renversement des valeurs telles que nous pouvons les connaître. Et enfin, nous verrons Bartimée comme un exemple de disciple. Et le premier point, Jésus a accepté de souffrir. Alors, pour bien comprendre ce passage, il est important de prendre un peu de recul et de faire un bond en avant. Et Marc, dans le même évangile, écrit un peu plus loin, en Marc 16, verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 33, on peut lire que, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rapporte dans Hébreux 10, verset 12, « Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Et Pierre, dans sa première épître, nous rapporte « Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. » Et il y a un grand nombre de versets dans le Nouveau Testament où on a cette référence où Jésus s'est assis à la droite de Dieu. La question que nous devons nous poser alors, c'est de savoir pourquoi Jésus est assis à la droite de Dieu. Et c'est finalement ce que nous explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Parce que Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort sur la croix à cause de nos péchés, Jésus a été glorifié par son Père. Il a reçu tout pouvoir et il est désormais assis sur le trône. Il l'a fait, malgré qu'il savait en tant qu'homme ce qu'il attendait. Et c'est lui-même, et on peut le relire dans le passage qu'on a lu ce matin, c'est lui-même qui l'annonce à ses disciples dans le passage de Marc. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Alors imaginons un seul instant que nous apprenions la date de notre décès et la manière dont nous allons décéder. Comment est-ce qu'on réagirait? Est-ce que, et c'est, ça peut être tout à fait humain, est-ce que l'on n'essaierait pas de repousser le plus possible notre propre mort? Est-ce que l'on ne ferait pas tout pour avoir la mort la plus agréable ou la plus douce possible? Car finalement, la mort que Jésus annonce là n'est pas une mort douce. La crucifixion était une des morts les plus lentes et les plus terribles, avec des souffrances physiques énormes, sans compter les moqueries et les souffrances psychologiques que Jésus subira, alors qu'il était innocent et que personne n'a trouvé un motif valable pour le condamner à mort. Jésus savait à ce moment-là ce qu'il attendait, mais il n'a pas reculé. Bien au contraire, il a marché droit devant, car en mourant sur la croix, il permet à chaque personne qui croit en lui d'avoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et là, c'est tout simplement le message de l'Évangile qui est rappelé. Si tu crois que Jésus est mort à ta place pour tes péchés et que tu te repens, tu seras pardonné et tu obtiens dès à présent la vie éternelle. Ce que Jésus a annoncé à ses disciples a été accompli. Et on peut lire plus loin dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 53, ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Marc 15, verset 1, dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Marc 15, verset 16, les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Et après s'être ainsi moqués de lui, Ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Marc 16, verset 6. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Ainsi donc, tout ce que Jésus annonce dans le passage de Marc 10 que nous avons lu ce matin, s'est exactement passé comme il l'avait annoncé, conformément à ce qu'il savait déjà. Mais Jésus, même en sachant cela, n'a pas reculé devant ce qu'il attendait. Il a montré un exemple de service qui va jusqu'au sacrifice par amour pour nous. Jésus a accepté de souffrir. Alors, l'exemple de Jésus contraste avec notre nature humaine. Et juste après que Jésus annonce qu'il va mourir, voilà que Jacques et Jean, deux frères, les fils de Zébédée, nous est-il dit, s'approchent de Jésus et lui demandent d'être assis, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, quand il sera dans sa gloire. Quel culot! Jésus ne leur répond pas tout de suite et leur pose la question. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Autrement dit, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de demander? Et eux répondent, oui, nous le pouvons. Et là, c'est la stupéfaction dans le groupe de disciples. Comment Jacques et Jean peuvent-ils faire une demande pareille? Et pourquoi font-ils cette demande? Alors, le passage de Marc, tel que nous l'avons lu ce matin, il y a un autre évangéliste qui le rapporte, et c'est notamment Matthieu. Et il nous donne un éclairage assez intéressant, puisqu'on peut lire qu'au chapitre 19 de Matthieu, verset 28, juste avant la demande de Jacques et Jean, voilà ce que dit Jésus. Jésus annonce aux disciples, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Autrement dit, Jacques et Jean apprennent qu'ils vont être aussi assis sur un des trônes, qu'ils vont juger également les 12 tribus d'Israël, et ils se disent qu'il y a donc des bonnes places à prendre et surtout que c'est pour très bientôt. Ils voient donc leur intérêt et ils essayent de profiter de la situation. Il y a des places à prendre, mais c'est maintenant qu'il faut les prendre et s'assurer qu'elles seront bien réservées. Si on regarde aussi le passage dans Matthieu, on se rend compte que c'est leur maman qui fait la demande à Jésus pour ses deux fils. En quelque sorte, elle essaye de leur venir en aide, de leur assurer le meilleur avenir possible. Alors j'ouvre juste ici une parenthèse. Il y a certains commentateurs qui pensent que la maman serait la sœur de la mère de Jésus, autrement dit la tante de Jésus. Ainsi, si l'information est confirmée, on serait en droit de penser que Jacques et Jean et leur maman essayent de profiter des liens familiaux pour obtenir un avantage dans la vie éternelle à venir, un passe-droit en quelque sorte, puisque Jacques et Jean seraient donc cousins de Jésus. Mais moi, ce matin, je ne peux pas vous confirmer cette hypothèse, donc je referme cette parenthèse, je voulais juste l'évoquer, puisque certains commentateurs l'évoquent. Mais ça ne changerait en rien le fait que Jacques et Jean voulaient obtenir un passe-droit et surtout réserver des meilleures places. Alors on peut donc comprendre la réaction des autres disciples qui sont choqués, indignés par l'attitude de Jacques et Jean. Et nous-mêmes, nous sommes énervés quand on voit des personnes abusant de leur position pour en tirer un avantage personnel. On peut être jaloux qu'ils puissent le faire, mais si on était à leur place, une chose est certaine, nous on le ferait pas. Ne serait-ce que par exemple sur la route, je peux être facilement énervé quand je vois quelqu'un se faufiler, passant dans la faille pour gagner du temps, passer devant tout le monde. Et quand on voit quand on voit ce comportement à l'école, au travail ou ailleurs, cela nous énerve. Mais nous, en revanche, on le fait jamais. Alors que répond Jésus à Jacques et à Jean ? Vous boirez en effet la coupe que je vais boire. » Alors, quand on regarde la suite, dans Acte 12, effectivement, Jacques a été tué par l'épée. Il a été victime des persécutions. Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Jésus se soumet à son Père et il le dit clairement. Cela ne dépend pas de lui. Et il ajoute, vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus décrit tout simplement comment fonctionne le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et les personnes qui arrivent à gravir des échelons n'hésitent pas à bien appuyer sur les personnes qui sont en dessous d'elles pour leur montrer que ce sont elles qui décident, pour leur montrer qu'elles ont réussi pour conserver aussi cette distance. Alors je n'ai pas besoin de donner d'exemple parce que je suis certain qu'il y a plusieurs cas déjà qui vous viennent en tête autour de vous, là où vous vous trouvez durant la semaine. Cependant, Jésus nous dit clairement que cela ne doit pas être le cas pour ceux qui le suivent et qui veulent être ses disciples. Il nous demande d'être serviteurs les uns des autres. Et cela contraste totalement avec la manière de fonctionner du monde. Jésus révolutionne ici les relations que nous devons avoir les uns avec les autres. Ne pas chercher en premier son intérêt personnel, mais se considérer comme au service des autres. En agissant ainsi, on prouve que l'on a de l'amour les uns pour les autres. On prouve que notre marque de fabrique ne vient pas de ce monde, mais en nous voyant agir de la sorte, les personnes doivent pouvoir se dire « cette personne-là, ces personnes-là sont chrétiennes ». Nous sommes amenés à rester humbles dans tout ce que l'on fait, mais à bien le faire, pour les autres, pour la gloire de Dieu, et non pour soi. Je prends juste un exemple alors, du coup, parce que c'est un exemple qui peut nous toucher aussi tous, avec le temps que l'on passe au travail. Eh bien, dans notre travail, soyons alors excellents dans ce que l'on fait. Soyons les meilleurs employés que notre patron n'ait jamais eu. Mais pour le service des autres, sans dénigrer nos collègues, mais en les aidant, sans se mettre en avant et en restant modestes. C'est à cela que nous sommes appelés. Et ainsi, Jésus renverse les valeurs et nous appelle à suivre son exemple et à devenir serviteurs les uns des autres. Et puis nous avons l'exemple de Bartimée comme disciple. Alors l'histoire de Bartimée est très connue, car nombre d'entre nous l'avons entendue depuis que nous sommes tout petits. Elle est un formidable exemple de ce qu'est un disciple, et revisiter finalement cette histoire de la rencontre entre Bartimée et Jésus est riche en enseignements. Alors la ville de Jéricho était considérée à l'époque comme un petit paradis. Il y avait des milliers de palmiers, de grands jardins, des allées de sycomores, rappelons-nous l'histoire de Zachée qui était monté dans l'un d'eux pour voir Jésus. Il y avait des bains, un théâtre, et puis le climat en hiver était agréable. Il s'agissait d'une ville riche se situant au croisement de plusieurs routes. Donc une ville qui était située sur un emplacement stratégique. Il s'agissait également d'une ville médicinale qui avait une moyenne d'aveugles un peu plus élevée que les autres villes, car on utilisait une plante spéciale pour en faire un baume afin de tenter de soigner les problèmes de vue. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, et ainsi les aveugles se mettaient souvent à un endroit stratégique dans un lieu de passage, souvent le même pour mendier, afin de subvenir à leurs besoins. Et donc, il s'agissait généralement de personnes qui étaient pauvres, faisant également face à la concurrence des autres aveugles, il dépendait bien souvent de la générosité des gens. Alors Bartimée avait certainement entendu parler de Jésus, comme beaucoup d'autres personnes à cette époque, des guérisons et des miracles qu'il a pu faire. Ce jour-là, Bartimée s'aperçoit que quelque chose est différent. Il entend une agitation de la foule, des pas inhabituels, et alors il se renseigne. Il apprend que Jésus de Nazareth, alors ce nom était donné pour Jésus-Christ, et ça, c'est un nom qui permettait de reconnaître Jésus, parce que des personnes qui s'appelaient Jésus pouvaient y en avoir d'autres, mais là il apprend que Jésus de Nazareth arrive. Et il se dit peut-être alors, eh bien que c'est sa seule chance de pouvoir être guéri. Il devait certainement être là depuis des années, mendiant chaque jour à la même place. Mais là, cet événement le bouscule. Et je pense que dans sa tête, ça n'a dû faire qu'un seul tour. Il devait saisir l'occasion qui allait se présenter à lui. Elle était unique et inespérée. Car si Jésus de Nazareth a guéri tant de personnes avant lui, il serait alors certainement capable de faire quelque chose dans sa situation. Et là, Bartimée, réflexe, il prie. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne crie pas Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Eh bien, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée l'appelle par un terme messianique, faisant référence à l'Ancien Testament qui annonçait que le Messie viendrait de la postérité de David. Ainsi, Bartimée reconnaît Jésus comme le véritable Messie. Il sait que ce Jésus de Nazareth est le Messie. Et Bartimée crie, et il appelle à l'aide. La foule essaye de le reprendre. Mais Bartimée ne se laisse pas faire, il appelle encore plus fort, car il veut absolument attirer l'attention de Jésus. Il n'est juste pas concevable pour lui que Jésus passe sans le remarquer, et Bartimée persiste, il persévère. Et quand Jésus s'arrête et fait venir Bartimée, Bartimée jeta son manteau, et puis il se leva d'un bond pour venir vers Jésus. Alors peut-être que Bartimée, comme beaucoup d'autres aveugles, ne possédait finalement que ce manteau, qui lui servait aussi en le mettant sur lui pour récolter les quelques pièces d'argent qu'on lui donnait. Mais à ce moment-là, Bartimée laisse son manteau, peut-être même les pièces d'argent qui étaient dedans, j'en sais rien. En tout cas, il laisse tout ce qu'il possède pour venir à la rencontre de Jésus. Finalement, ça fait écho à ce que Jésus a enseigné dans Luc 14, verset 33. « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Bartimée était prêt à tout lâcher, même le peu qu'il avait pour rencontrer Jésus. Et quand Jésus demanda à Bartimée ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, Bartimée demande simplement à être guéri. Alors c'est intéressant parce que dans le passage, on a vu que Jésus pose la question deux fois à deux personnes différentes. Que voulez-vous que je fasse? Jacques et Jean ont répondu que l'un soit assis à ta droite et l'autre à la gauche, et Bartimée lui demande que je sois guéri. Deux réponses différentes. Jésus lui répondit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, vas-y, ta foi t'a guéri, mais il a bien dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Jésus a répondu au-delà de la demande de Bartimée. Il ne l'a pas simplement guéri physiquement, mais il l'a également restauré spirituellement. Le but de Jésus n'était pas simplement une guérison physique, mais une restauration complète de Bartimée dans sa relation avec son Créateur. Bartimée devient alors un disciple de Jésus, puisqu'il nous est dit à la fin du récit qu'il suivit Jésus sur le chemin. Ainsi, Bartimée a entendu parler de Jésus, il l'a reconnu, il a appelé à l'aide, il a persévéré quand des personnes tentaient de l'en dissuader. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Il a eu foi en lui et l'a suivi. Alors nous-mêmes ce matin, quel serait notre manteau que nous devrions laisser pour pouvoir suivre Jésus ? Qu'est-ce qui nous empêche de le suivre complètement? Et puis si finalement nous étions à la place de Jacques et Jean, ou si nous étions à la place de Bartimée, et que Jésus nous demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce qu'on lui répondrait? Je me suis posé cette question cette semaine, encore en préparant le message. Qu'est-ce que je répondrais à Jésus? Bonne question, alors je nous la laisse pour réflexion. Alors, pour conclure, je souhaiterais simplement récapituler ce que nous avons vu ensemble ce matin. Jésus a accepté de souffrir à la croix pour que tous ceux qui croient en son nom puissent avoir le pardon de leurs péchés et être réconciliés avec Dieu. C'est tout simplement le message de l'Évangile, et ainsi il a été glorifié et est assis désormais à la droite de Dieu. Le message de l'Évangile est révolutionnaire et va totalement à l'encontre des valeurs du monde. Jésus nous invite, si on veut être grand, à nous rendre serviteurs les uns des autres. C'est ainsi qu'en appliquant ce principe, le monde peut découvrir que nous sommes chrétiens en voyant le contraste entre ses valeurs et celles que Jésus nous apporte. Et enfin, Bartimée est un exemple de disciple, tel que Jésus nous appelle à l'être. Il a entendu parler de Jésus, il l'a reconnu, il l'a appelé à l'aide, il a persévéré quand des personnes tentaient de l'en dissuader, il a tout laissé pour suivre Jésus, il a eu foi en lui et il l'a suivi. Et son exemple nous interroge. En étant à sa place, si Jésus nous demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi » qu'est-ce que nous répondrions? Et quel est notre manteau que Jésus voudrait nous voir laisser pour que nous puissions le suivre pleinement?